Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième numéro de Sans langue de bois, votre nouvelle émission politique sur les ondes de Transistor. La semaine dernière, Tatiana Fauconnet vous proposait le premier numéro de Sans langue de bois, Paroles de militants, avec un débat autour de la question du droit des femmes. Cette semaine, c'est une nouvelle édition du grand journal politique de la rédaction que nous vous présentons. Et c'est Thomas qui vous en dévoile le programme. Bonjour Thomas.
Bonjour Marie-Ève, bonjour à tous. À la une de l'actualité politique cette semaine, le rapport gallois sur la compétitivité, pas encore sorti mais qui fait déjà polémique et qui pourrait embarrasser le gouvernement. L'enquête de la semaine réalisée par Mathilde Ferrez sera consacrée au bras de fer tendu entre le gouvernement, l'assurance maladie et les syndicats des médecins, à propos notamment des dépassements d'honoraires et qui vient de trouver un accord mardi dernier. Dans le reste de l'actualité politique, nous reviendrons également sur les trois petites phrases de François Hollande rendant hommage aux victimes de la manifestation sanglante du 17 octobre 1961 et reconnaissant en cette affaire la responsabilité de la République. Trois petites phrases qui ont suscité de vives polémiques, un sujet préparé par Colline Allier. Enfin, et de manière plus légère, nous vous montrerons qu'on peut être une élue verte et avoir un métier rose. Sans oublier la rubrique droit de suite, la chronique mensuelle de Jérôme Bastic, Vue d'Europe et deux éditoriaux cette semaine proposée par Caroline Bouchier et Louis Dubost.
Après avoir confié à l'ex-patron de ADS, Louis Gallois, une réflexion sur la compétitivité, le gouvernement semble déjà prendre ses distances avec ses conclusions présumées.
Il faut préciser, Marie-Ève, que ce rapport ne sortira que le 5 novembre, mais que le Figaro en a publié la semaine dernière les grandes lignes fondées sur des fuites qui s'étaient ébruitées.
Une information à considérer donc avec la prudence qui convient. Quel est le fond de ce rapport sur ce que l'on peut en savoir d'ores et déjà, Thomas ?
Alors, l'ancien patron de ADS préconiserait 30 milliards d'euros d'allègement de charges, dont 20 milliards concernant les cotisations patronales et 10 milliards pour les cotisations salariales, pour un plan qui s'établirait sur 2 ou 3 ans. Le tout produirait un choc de compétitivité.
Très bien, mais comment récupérer ces 30 milliards d'euros ?
C'est justement là que le bât blesse, Marie-Ève. Le rapport gallois proposerait une hausse modérée de la TVA et de la CSG, en plus d'une réduction massive des dépenses publiques. Ce dernier point forcerait le gouvernement à réfléchir à de nouvelles coupes budgétaires après les 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires prévues dans le budget 2013.
Hausse de la TVA et de la CSG, le choc de compétitivité du rapport gallois est en train de se transformer en choc de compatibilité, tellement les orientations préconisées par l'ex-patron de ADS semblent aux antipodes de la ligne du gouvernement. Et une question, pas encore sorti, le rapport sur la compétitivité, pourtant tant attendu par le gouvernement depuis 2 mois, serait-il déjà enterré ?
C'est en tous les cas ce qu'ont laissé augurer les premières réactions du gouvernement. Et de François Hollande lui-même. Le président de la République a en effet déclaré, je cite, « C'est un rapport qui engage son auteur, qui n'engage pas le gouvernement, pas le président de la République. » Et ses ministres de lui emboîter le pas, à l'image de Michel Sapin, ministre du Travail, qui a certes estimé que les recommandations de Louis Gallois seraient un élément extrêmement sérieux, je cite, mais pas le seul point de vue qui compte.
Et déjà, à l'UMP, on fait ses choux gras de cette affaire.
Jean-François Copé a en effet dénoncé l'absence de courage du gouvernement sur le dossier de la compétitivité qui devrait être, selon lui, la mère de toutes les batailles. On l'écoute au micro d'Europe 1.
Vous voyez bien le caractère totalement artificiel du discours gouvernemental. Comment peut-on parler de compétitivité alors qu'on sait que le premier sujet, c'est le coût du travail, c'est-à-dire le poids des charges qui pèsent sur les employeurs, non pas les salaires, mais le poids des charges, et que dans le même temps, vous avez un gouvernement qui vous explique que c'est pas le problème, alors que tous les rapports montrent l'inverse. Il mandate Louis Gallois, qui s'embarque dans un rapport qui reprend toutes les propositions de l'UMP, et du coup, il est censuré avant même d'avoir remis la totalité de sa copie. Ce qui m'inquiète derrière tout cela, c'est l'absence de logique économique, c'est l'absence de vision pour notre pays. Ce qui m'inquiète, c'est de voir un François Hollande qui, pendant toute la campagne présidentielle, s'est vanté dans tous les sens. Vous vous souvenez de ce « moi, président de la République », de donner une stratégie économique et qui n'en donne aucune. Et nous l'avions dit tout au long de la campagne. Il faut impérativement que la compétitivité soit la mère de toutes les batailles. Il ne veut pas la mener parce qu'elle demande effectivement des décisions courageuses.
Alors évidemment, au gouvernement, on essaye d'endiguer la polémique.
Le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, s'est déclaré mardi 23 octobre favorable à un allègement des charges des entreprises pour améliorer la compétitivité de l'économie française, mais pas favorable à une augmentation de la CSG pour compenser cette baisse. On l'écoute au micro de RTL.
Et nous voulons une politique forte pour la compétitivité. Parce que
est-ce que si ça passe par une baisse des charges?
Ça passe par deux choses. Ça passe d'abord par la compétitivité hors coût, c'est-à-dire par tous les facteurs qui font que cette économie française est trop rigide, a un coût de service trop important, n'a pas de dépenses de recherche et d'innovation suffisantes, a un système de formation et de création des compétences qui peut être amélioré.
Et ça, c'est un peu pour le long terme.
C'est du long terme, mais
et
ça
tout
aussi
de suite,
un impact. Et il y a la question du coût du travail. Et c'est là-dessus que nous attendons le rapport Gallois. Moi, ce que je pense, c'est que cette question n'est pas une question taboue. François Hollande l'a dit d'ailleurs, il faut faire en sorte que le financement de la protection sociale ne pèse pas entièrement sur le facteur travail. Mais il y a plusieurs arbitrages fiscaux qui sont à rendre. Ma position, c'est qu'il faudra en effet qu'il y ait une partie d'allègement de charges avec des proportions déterminées et des financements à face à trois.
Même son de cloche du côté de Matignon.
En déplacement à Toulouse, Jean-Marc Ayrault a en effet vanté la réussite de ADS et a cité la maison mère d'Airbus en modèle. Il a également affirmé que la France devait relever le défi de la compétitivité. Et à propos du rapport gallois, comme pour Pierre Moscovici, le Premier ministre a récusé toute cérémonie d'enterrement.
Ceux qui pensent que ce sera un rapport pour rien se trompent totalement. Tout ce qui sera faisable immédiatement, nous le ferons.
Derrière cette polémique, que l'on peut clore aisément, en reprenant cette formule signée Arnaud Montebourg, je cite « le rapport gallois, il va falloir le lire avant de le commenter », se pose la question de la compétitivité de la France. Question particulièrement d'actualité.
La dégradation continue du commerce extérieur français, la nécessité de corriger les déséquilibres intra-européens et la volonté politique d'une convergence franco-allemande y contribuent.
Pour éclairer le problème de la compétitivité des entreprises françaises, nous reprendrons ici des analyses d'Eli Cohen.
Il rappelle en effet que depuis 30 ans, on assiste en effet à une érosion continue des parts de marché de la France à l'export, 3,8% en 2010 contre 6% en 1980.
Ce décrochage présente trois caractéristiques.
D'abord, il porte sur tous les secteurs et concerne toutes les parties du monde. L'Asie émergente comme l'Allemagne, le secteur des biens de consommation comme celui de l'automobile. Ensuite, il n'est pas le fait de la seule montée en puissance des pays dits émergents, puisque les parts de marché de la France baissent même au sein de la zone euro, de 17% en 98 à 13% en 2010. Enfin, il est le plus marqué vis-à-vis de l'Allemagne. Il y a 10 ans, les exportations françaises représentaient 55% des exportations allemandes. Elles en représentent aujourd'hui 40%.
Cet effondrement du commerce extérieur de la France s'est accompagné d'une forte contraction de la base industrielle française. L'industrie ne représente plus que 13% de la valeur ajoutée en France contre 29% en Allemagne.
Contexte peu favorable à l'acte activité donc, ce qui est confirmé quand on sait que les investissements directs de l'étranger en France s'expliquent davantage par des rachats d'entreprises que par des créations nouvelles d'unités de production en France.
Mais alors, quelle serait la solution ?
Alors, solution, je ne sais pas, mais Eli Cohen indique qu'un regain de dynamisme passera par une amélioration des éléments de compétitivité hors coût, avec une stimulation de l'innovation, de la créativité, de la montée en gamme des produits exportés et des éléments de compétitivité coût.
Il note également que la capacité de l'Allemagne à développer sa spécialisation manufacturière, à trouver la balance entre production domestique et production délocalisée et à répartir le coût de sa protection sociale entre charges salariales et taxation de la consommation mérite considération.
Reste à savoir ce que préconisera précisément quant à lui le rapport gallois. Et pour cela, rendez-vous le 5 novembre. Affaire à suivre donc.
Vous le savez maintenant, nous accueillons à chaque numéro deux éditorialistes aux sensibilités différentes, voire radicalement opposées, pour que toutes les opinions s'expriment sans langue de bois.
Dans le précédent numéro, vous avez découvert la voix, le ton et le regard politique de Thibaut Sardier et d'Amos Reichmann. Nous accueillons aujourd'hui Caroline Bouchier, qui était déjà venue nous voir il y a un mois et avait signé un papier sur les traités européens à l'occasion des 20 ans du traité de Maastricht, rappelez-vous.
Cette semaine, nouvelle émission, nouveau sujet, place à l'éditorial de Caroline.
Bonjour Caroline. Alors cette semaine, tu t'es intéressée à la question du mariage pour tous.
On ne ment pas aux enfants. Voilà Thomas ce que je retiens de ces derniers jours. Chers auditeurs, vous ignorez peut-être qu'un projet de loi sur le mariage homosexuel devrait être présenté mercredi en Conseil des ministres. Et c'est ce projet qui provoque, depuis une quinzaine de jours, le déferlement d'actions et de danses toutes plus douteuses les unes que les autres. T-shirt rose pour les dames, t-shirt vert pour les messieurs, un seul slogan... Un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants. Cette chronique pourrait facilement prendre le contre-pied de l'Alliance Vita, association fondée par Christine Boutin pour la défense de la vie, en prenant justement au sérieux ce cri de vérité lancé pour le droit des enfants. Que penser en effet du cas des familles monoparentales, des familles divorcées, des couples homosexuels ayant déjà des enfants, et cas limite encore plus difficile de l'adoption monoparentale déjà autorisée. Ces parents mentent-ils à leurs enfants? Sont-ils coupables d'un amour non hétéronormé? Mais les arguments n'ajouteraient que de l'eau à un moulin trop bien huilé. Et je ne parlerai donc pas dans cette chronique du débat sur l'équilibre supposé des couples hétéros. Je ne parlerai pas des échelles de valeurs de l'amour qui sont honteusement faites ces derniers jours. Je ne parlerai pas non plus de l'intégrisme chrétien qui se porte au mieux dans ce genre de débat, pouvant marcher allègrement sur 30 années de dépénalisation de l'homosexualité et répandre ainsi leur homophobie sans être inquiété. Ne peut-on pas lire ici les déclarations du maire d'Orange, ancien du FN, Jacques Bompard, ou là, les déclarations des maires du Rhône qui s'engagent à ne pas célébrer d'union homosexuelle, ou encore les pensées du moindre militant de la fameuse Alliance Vita, sans que le gouvernement, l'Assemblée nationale ou une quelconque institution ne rappelle les limites de la liberté d'expression et la pénalisation, au même titre que les propos xénophobes, racistes ou sexistes, de propos homophobes tenus publiquement. Non, Thomas, je parlerai plutôt de l'incroyable victoire de la République qui se prépare et qui, j'espère, aboutira au plus vite. Une fois de plus, une fois encore, la République française a trouvé les ressources politiques pour élargir l'égalité à tous. En 1789, il s'agissait d'abolir les ordres et les classes censitaires. En 1944, les femmes pouvaient enfin prétendre à l'expression politique. En 2012, la République française a compris que le mariage n'était pas qu'une affaire de normes hétérosexuelles. Mesdames et messieurs les intégristes de tout poil, mesdames et messieurs les conservateurs, mesdames et messieurs les maires du Rhône, en refusant la légalisation du mariage homosexuel, c'est la République que vous refusez. J'ai bien peur, malheureusement pour vous, que vous ayez de nouveau perdu. Comme en 1789, comme en 1848, comme en 1944, comme en 1982, comme en 1999, 2012 fera avancer une vision plus complexe de la République et du premier de ses fondements, l'égalité. Vision plus complexe, vision plus exigeante, l'égalité avance, aujourd'hui le mariage homosexuel, demain l'adoption, la procréation et tout ce qui devra être fait, je l'espère, pour garantir l'égalité entre un couple hétérosexuel et un couple homosexuel. Nous avançons, mesdames et messieurs, ne tardez pas, vous risquez de vous perdre et surtout, surtout n'oubliez pas, Jésus aussi avait deux papas.
Merci Caroline.
Et on passe maintenant à l'enquête de la semaine consacrée aux négociations tendues entre les médecins, l'assurance maladie et le gouvernement autour notamment du dépassement des honoraires. Une enquête réalisée par Mathilde Ferrez.
La Caisse nationale d'assurance maladie, les mutuelles et les médecins ont débattu longuement ces derniers jours sur la question des dépassements d'honoraires, question qui est en effet un des points centraux du 20e engagement de campagne de François Hollande qui promettait un accès aux soins plus juste.
Affaire d'honoraires, une enquête réalisée par Mathilde Ferrez.
Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Alors il s'agissait d'un engagement de campagne de François Hollande, seulement les médecins n'ont pas vu cela d'un très bon œil.
Oui, parce que toucher à leurs revenus, c'est atteindre leur honneur. Dès lors, ils ont résisté et la négociation est devenue un vrai bras de fer. Les discussions entamées la semaine dernière sur les dépassements d'honoraires impliquaient trois acteurs. La Caisse nationale d'assurance maladie, les mutuelles complémentaires et les syndicats de médecins.
Plusieurs jours de négociations ont été nécessaires pour qu'enfin, mardi 24 octobre, un accord soit trouvé.
Le texte, dans sa version finale et négociée, prévoit de permettre aux praticiens de baisser leur tarification en échange de remboursement de cotisations sociales. Mais pour parvenir à ce résultat, les débats furent houleux.
Avant d'expliquer les points d'achoppement, faisons peut-être un rappel du principe remis en question et de la fonction des différents acteurs.
Alors tout d'abord, qu'est-ce que les dépassements d'honoraires?
Ce sont des sommes que certains médecins de ville peuvent réclamer en plus du tarif fixé avec la sécurité sociale. En dépassant le cadre sécu, la dépense est, par conséquent, à la charge du patient ou éventuellement de sa complémentaire santé.
Les bénéficiaires de la couverture maladie universelle, la CMU, qui permet un accès aux soins des plus démunis, en sont cependant exempts.
Les médecins qui jouissent de l'avantage de dépasser le cadre sécu font partie du secteur 2 et s'opposent en cela à ceux du secteur 1, soumis au tarif sécu, c'est-à-dire à la consultation à 23 euros fixe. Cette hiérarchie au sein du corps médical a été créée en 1980 par Raymond Barre pour permettre aux médecins de mieux gagner leur vie sans faire déraper les dépenses de l'assurance maladie.
En majorité, ceux qui composent le secteur 2 dont tu parles, Mathilde, ce sont des spécialistes, chirurgiens et ORL, en tête. En revanche, les généralistes y sont marginaux. Ils ne constituent que 6% du secteur.
On a bien compris donc le fond du problème. Maintenant, qu'en est-il des acteurs de cette négociation tripartite ?
Alors, en ce qui concerne les membres des débats, inutile de rappeler ce qu'est la Sécurité sociale, belle institution créée par le CNR, et chargée d'offrir un égal accès de soins à tous par la redistribution des ressources.
Autre acteur de la négociation, les syndicats de médecins qui représentaient la branche libérale de la médecine.
Et les mutuelles complémentaires dans tout ça ?
Les mutuelles complémentaires sont nées pour compenser la partie de remboursement des soins que la Sécurité sociale ne peut effectuer. L'assuré peut donc souscrire à une mutuelle complémentaire pour obtenir la part manquante.
Les principaux acteurs concernés par la question des honoraires des médecins étaient donc bien représentés lors de ces journées de négociation, mais en revanche pas les représentants des patients quelque peu marginalisés. Mais un autre secteur s'est comme invité à la table des négociations, le gouvernement.
Le ministre de la Santé avait pourtant tenu, dans un premier temps, à rester à l'écart des discussions.
Toutefois, la ministre Marisol Touraine n'a pas hésité à s'insérer indirectement dans le débat en commentant les lentes avancées de celui-ci. D'après elle, l'accord peinait à voir le jour à cause des médecins. Il refuserait de paraphraser un compromis satisfaisant pour tout le monde, a-t-elle dit le jeudi 18 octobre. En outre, elle a brandi la menace d'agir directement en reprenant le dossier. Dans ce cas, un projet de loi aurait été proposé au Parlement pour procéder à l'encadrement des dépassements d'honoraires en dehors de toute négociation préalable.
Mais pourquoi le ministre a-t-elle manifesté une telle détermination sur la question des honoraires des médecins ?
La réponse à cette question tient en deux mots, Marie-Ève, ou plutôt en 10. Je sécuriserai l'accès aux soins de tous les Français. Oui, ça fait 10 mots. C'est-à-dire le 20e engagement de François Hollande.
Un engagement qui s'inscrivait dans une volonté de rétablissement de justice entre les citoyens français. Le même accès aux soins pour tous, en dehors de ses revenus. Cela passait par la réduction du prix des médicaments, la suppression du droit d'entrée dans le dispositif de l'aide médicale d'État et le fameux encadrement des dépassements d'honoraires.
En effet, les dépassements d'honoraires posent un véritable problème de santé publique.
C'est vrai, Thomas. D'ailleurs, le Canard enchaîné du mardi 17 octobre rappelait que ces dépassements coûtaient 2,5 milliards d'euros par an à l'ensemble des patients et dissuaderaient certains de se soigner.
Des excès d'autant plus injustes que les supposés organes de contrôle sont très peu efficaces.
En effet, on peut se demander si le Conseil de l'Ordre, organisme de droit privé regroupant les médecins et qui, d'après sa propre définition, doit veiller au principe de moralité, de probité au sein de la médecine, a vraiment rempli sa mission. Censé prononcer des sanctions en cas de dépassement d'honoraires abusifs, il est en fait resté bien silencieux depuis plusieurs années.
Et ce silence fait des victimes ?
Oui. D'après les derniers chiffres de l'enquête menée par l'Institut CSA, un Français sur 5 renonce aux soins plus souvent qu'avant ou les retarde de faute d'argent. Les plus touchés, ce sont ceux que l'on pourrait appeler les Français de l'entre-deux, c'est-à-dire ni les plus démunis qui bénéficient de la CMU, ni les plus aisés. Les personnes qui hésitent à se rendre dans un cabinet médical sont celles qui n'ont pas accès à une complémentaire santé ou dont la complémentaire couvre mal les dépassements, les fonctionnaires notamment.
La création du secteur 2 a donc créé, à t'entendre, une véritable fracture sanitaire.
Il existe certes de vrais déserts médicaux en France, mais se dessinent également des déserts médicaux de tarifs sécu. Selon une enquête menée par l'association de consommateurs UFC Que Choisir, 80% des Français vivent dans une zone où l'accès à un ophtalmologue ou un gynécologue sans dépassement d'honoraires est compliqué.
Le secteur 2 n'a donc pas créé une dynamique de responsabilisation, mais plutôt une forme de libéralisation du système de santé, selon les propos mêmes d'André Grimaldi, professeur de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière.
En effet, l'instauration de la liberté des honoraires devait permettre aux médecins de s'installer là où il y a une clientèle. Et en situation de concurrence, les prix auraient dû baisser. Seulement, il n'en est rien. Les médecins s'installent souvent dans les mêmes zones géographiques et pratiquent les mêmes tarifs, sans prise en compte de la situation ponctuelle.
À vous entendre, les dépassements d'honoraires seraient des abus avec de graves conséquences. Alors comment et pourquoi les médecins les expliquent-ils et les justifient-ils ?
Revenons sur la définition même du Conseil de l'Ordre, qui se présente comme l'organe capable de défendre l'honneur et l'indépendance de la profession médicale.
On note donc d'emblée l'importance que les médecins accordent à leur liberté. Ils tiennent à gérer eux-mêmes leur profession. Ça fait partie de l'honneur du médecin.
Rappelons que les médecins ne reçoivent pas un salaire qui rémunère un travail, mais des honoraires. Terme d'ailleurs tiré du mot même d'honneur, lié à leurs compétences. C'est la différence entre le salariat et les professions libérales.
C'est cela même. Et nombre de médecins et de futurs médecins ne voient pas au nom de quoi ils réduiraient leurs revenus, étant donné qu'ils ont choisi l'exercice libéral. Alors forcément, quand la Sécu s'en mêle pour les dépassements d'honoraires, ça coince. D'autant que les médecins ont manifesté lors des dernières discussions le sentiment d'une dévalorisation de la profession, tant d'un point de vue social que pécunier.
Les abus, donc, ils les récusent et même ils les refusent.
Mieux, contre les excès du secteur 2, ils proposent une revalorisation du secteur 1. En effet, le revenu du secteur 1, considéré comme trop faible par la majorité des médecins, permettrait, une fois réévalué, d'améliorer la qualité des soins. Mieux payés, les médecins travailleraient avec moins de précipitation. Ainsi, le patient serait mieux pris en charge.
En outre, revaloriser les revenus représenterait également un gage de qualité en ce qui concerne le matériel.
Les médecins soulignent en effet le prix important des plateaux techniques dont ils se servent pour les soins et qu'ils paient en partie avec leurs honoraires.
Mais la question de la revalorisation du secteur 1 qui tourne autour du revenu des médecins traduit un autre problème qu'il faut probablement traiter en parallèle de l'encadrement des dépassements d'honoraires, celui des déserts médicaux.
En effet, les déserts médicaux ont contribué au durcissement des conditions de travail des médecins. Cabinets engorgés, horaires extensibles, exigences des patients. Par conséquent, l'importance du revenu devient symbole de l'importance de l'investissement personnel. Il condense et compense le sacrifice. La ministre de la Santé devrait traiter dans la foulée ce point, d'autant qu'il s'inscrit également dans un idéal de justice. Un accès aux soins égal pour tous, indépendamment de ma situation sociale, de mon salaire, de ma ruralité ou de ma citadinité.
Affaire d'honoraires, une enquête réalisée par Mathilde Ferrez.
Et si on changeait d'échelle, si on prenait du recul, et si on regardait la politique européenne et la politique avec des yeux d'Européens ?
Sur le sujet des dépassements d'honoraires, un regard européen nous montre en effet que, d'après les dernières comparaisons internationales disponibles de l'OCDE, les médecins français gagnent nettement moins que les Néerlandais en 2009, les mieux lotis de l'Union européenne étant les Allemands.
Si les écarts sont à relativiser, il s'agit de rémunération nette pour la France et brute pour les pays étrangers, les différences, surtout dans le cas des spécialistes, demeurent très importantes.
Si, côté rémunération, les médecins français sont loin d'être les mieux lotis, leurs confrères européens envient le statut des médecins français conventionnés en secteur 2, dont Mathilde parlait tout à l'heure.
La France est en effet la seule parmi les pays européens à faire cette distinction entre médecins de secteur 1, payés au tarif fixé par la Sécurité sociale, et médecins de secteur 2, libres de fixer des dépassements d'honoraires.
Le cas des dépassements d'honoraires est assez unique en Europe, confirme Gaëtan Lafortune, spécialiste des questions de santé à l'OCDE. Dans la plupart des pays développés, les médecins sont en effet tenus de respecter les tarifs réglementés. S'ils veulent s'en libérer, ils doivent se déconventionner.
En clair, certes, les médecins français ne sont pas en moyenne les mieux payés d'Europe, mais avec la liberté de fixer des dépassements d'honoraires tout en restant conventionnés, liberté allouée aux médecins de secteur 2, ils peuvent être potentiellement et individuellement les mieux payés d'Europe.
Si on continue la comparaison avec les autres pays européens sur ce sujet, on constate que, question progression sociale, les médecins français se situent en revanche plutôt dans la moyenne.
C'est vrai Thomas, puisqu'ils ont vu leurs revenus augmenter entre 2000 et 2009, hors inflation de près de 2% par an pour les spécialistes et de 1,6% pour les généralistes.
On peut même dire que les médecins français échappent au pire.
Tout à fait, puisqu'au Royaume-Uni par exemple, les praticiens salariés ont vu leur salaire gelé. En Irlande, ils ont baissé sous l'effet des coupes budgétaires après des années de forte progression. C'est pire en Grèce, où les médecins du public ont subi les mêmes coupures de salaire de l'ordre de 20% que tous les autres fonctionnaires.
Bref, vous le voyez, il est souvent bon de voir les choses avec les yeux et le recul d'un Européen. Parce que l'Union Européenne, ce n'est pas que des technocrates bruxellois incompréhensibles ou une crise de la zone euro. Parce que l'Union Européenne mérite mieux que l'image lointaine et souvent négative qu'en donnent la plupart des médias traditionnels. Jérôme Bastic vous présente régulièrement sa chronique « Vue d'Europe ». « Bonjour Jérôme, et heureux de te retrouver cette fois-ci en studio.
Bonjour.
Alors, tu souhaitais, il y a un mois, un bon anniversaire à Maastricht, 20 ans déjà, rappelons-le. C'est une grande occasion, une autre grande occasion, qui anime ta chronique Vue d'Europe cette semaine, la distinction du prix Nobel de la paix accordé à l'Union Européenne.
Tout à fait. Trop tard, disent les uns. Trop tôt, disent les autres. Et si, pour une fois, nous nous réjouissions de ce prix Nobel de la paix, pour le moins inattendu, décerné à l'Union Européenne? Pour une fois qu'une bonne nouvelle concerne l'Europe ces temps-ci, il faut bien la savourer, sans modération, car elle rappelle aux citoyens de l'Union, parfois et non sans ironie, contre eux-mêmes, quel est le cœur de leur aventure européenne et que nous avons de quoi être fiers. Trop tard, disent les uns. Ce prix Nobel de la paix récompenserait davantage l'Europe du XXe siècle, celle qui a su magistralement faire fi des déchirures séculaires des États qui la composent pour instaurer une paix durable, plutôt que l'Europe du XXIe siècle. C'est vrai. Et de quelle incroyable vérité s'agit-il? Mais c'est néanmoins réducteur. Qu'est-ce qu'a représenté l'Europe pour des générations et des générations? Il est fondamental de le rappeler pour bien se rendre compte de l'œuvre qui a été construite et du chemin qui a été parcouru, car on oublie aujourd'hui souvent l'Europe de la guerre. Hélas, mais tant mieux aussi, car cela prouve bien que la paix recherchée a bel et bien été obtenue de manière évidente, au point que nous n'y pensons même plus. Doit-on donc rappeler qu'il y a peu de temps encore, l'Europe, c'était dans chaque ville, dans chaque village de notre vieux continent, les noms de chacune de nos familles, par dizaines, par centaines, par milliers, gravés dans la pierre du monument aux morts? Doit-on rappeler qu'en l'espace de 70 ans, en raison de leur nationalisme passé, la France et l'Allemagne se sont livrées par trois fois une guerre sans merci? Doit-on rappeler que c'est au cœur de ce même continent qu'était née l'idée effroyable de supprimer des populations entières sans aucun autre motif que leur naissance ou que leur différence? Après avoir été pendant des siècles le théâtre des plus horribles déchaînements de violence, l'Europe est désormais un modèle de concorde intérieure et contribue à réduire des conflits extérieurs. Et c'est très bien. L'hommage que rend donc aujourd'hui le prix Nobel est donc avant tout une récompense à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, depuis six décennies, sont parvenus à frayer le chemin de la paix, à œuvrer au rapprochement entre les peuples, à imaginer des mécanismes permettant à des États autrefois ennemis de devenir d'authentiques partenaires et à faire que ce continent, qui fit par deux fois sombrer le monde dans la guerre, contribue aujourd'hui à sa relative stabilité. Et si je dis « depuis six décennies », c'est que ce prix n'est pas seulement une réponse aux efforts faits il y a 60 ans, à la sortie des guerres mondiales, mais aussi à d'autres initiatives qui ont fait que la paix règne aujourd'hui de manière à peu près généralisée sur notre continent. Pensons à l'Irlande du Nord, pensons aux Balkans. Certes, tout n'est pas parfait, il y a eu des erreurs, mais ce prix est amplement justifié par les efforts passés et constitue aujourd'hui un encouragement à faire encore mieux. Trop tôt, disent les autres. Peut-être qu'avant de récompenser l'Union européenne, il aurait fallu attendre la fin du film. Il est rare que les constructions artificielles de l'Empire romain à l'URSS ne connaissent pas un effondrement cataclysmique. Ai-je pu lire sous la plume de l'énarque Roland Hureau dans l'hebdomadaire Marianne. Maintenant que la paix est acquise, les Européens attendent d'autres bénéfices, notamment économiques. Or, c'est bien là que le bât blesse. Pourquoi ne pas décerner à l'Europe le prix Nobel de l'économie, a grincé Jean-Luc Mélenchon, voire le prix Nobel de la guerre économique, a renchéri Marine Le Pen? Ce prix Nobel a bien le mérite de mettre sous les yeux des eurosceptiques, des europhobes, ou tout simplement de ceux qui ne croient plus dans le bel idéal européen, une vérité qui les dérange. Contrairement à ce qui a pu être le cas il y a 3 ans pour Barack Obama, où il s'agissait d'un prix récompensant des promesses, souvent déçues depuis, il suffit pour s'en convaincre de voir sa posture actuelle de campagne, le comité Nobel s'est appuyé sur des résultats. Nous atteignons actuellement un point critique où les Grecs, entre autres, qui vivent de réelles souffrances, doivent voir d'un drôle d'œil rapprocher les mots « Europe » et « paix ». Ces mots sonnent aujourd'hui comme un appel à poursuivre l'œuvre entreprise, à un moment où certains pourraient être sur le point de flancher. Et pour cela, une solution, plus de fédéralisme, le seul à même d'éviter le symptôme construction artificielle, partant à U et à DIA, et de se doter d'un véritable projet politique commun. Mais pour ce faire, la démocratie européenne doit être plus lisible, pour éviter de donner l'impression qu'elle se fait sans les peuples, sans les citoyens, et d'en devenir ainsi le paradoxal bouc émissaire. Et en ce sens, ce n'est pas une personnalité qui a été récompensée, pour une fois, mais une institution, et à travers elle, chacun de nous. Car l'Union européenne, ce n'est pas seulement une institution, mais un ensemble de citoyens qui ont encore le choix de s'unir ou de se diviser. L'Europe, ce n'est pas simplement un instrument de la paix, mais par son essence même, elle est paix. Pour que son sillon soit droit, dit-on, le laboureur oriente sa charrue vers une étoile. Nous aussi suivons donc l'étoile de la paix pour que notre Europe puisse continuer à porter ce message d'espérance. Et ce n'était ni trop tard, ni trop tôt, mais à mon avis, bien le bon moment pour qu'un comité norvégien, donc peu suspect d'excessive europhilie, vienne nous le redire.
Merci Jérôme.
Sans langue de bois, c'est le choix d'entendre s'exprimer toutes les opinions politiques. Place donc maintenant au deuxième éditorial de l'émission et à la plume de Louis.
Bonjour Louis.
Bonjour Thomas.
Alors prix Nobel de la paix accordé en Europe, alors justement qu'en Europe se produit depuis quelques décennies un sursaut nationaliste dont Jérôme vient de parler, plus ou moins marqué selon les pays, et que l'on parle de plus en plus en Europe d'intégrisme religieux qui s'exprimerait avec de plus en plus de vigueur. Et dans ce climat, tu voulais nous alerter sur un certain regain de l'antisémitisme, phénomène insidieux qui prospère à l'ombre des traits médiatiques, racisme anti-blanc et islamophobie.
Mohamed aime à le proclamer sur Twitter, un bon juif est un juif mort. Un bon juif a un goût de cramé aussi, nous apprend Najim. Nous, en bon conservateur nostalgique, préférions le vieux dicton yiddish que se répétaient au siècle dernier les Ashkénazes en Europe orientale, heureux comme un juif en France. Il m'a semblé que la contradiction méritait réflexion. Aussi nous sommes-nous appropriés la question que placarde en une un grand hebdomadaire national : les juifs en France sont-ils en danger ? Alors d'abord méfions-nous. À trop disséquer l'actualité, nous commettrions une lourde erreur de perspective. L'antisémitisme en France n'a jamais été éradiqué. Les attentats sanglants d'octobre 80 et août 82, lointaines des flagrations du conflit israélo-palestinien, ne laissaient guère le doute planer. Mais aujourd'hui, les Youssouf Fofana, Mohamed Merah, Jérémy Louis Sidney ne sont pas des terroristes étrangers venus commettre leurs attentats sur notre sol. Ils sont nés ici, ont été scolarisés dans les établissements de la République, ont pu, à l'ombre du laxisme démagogique, de la droite et de la gauche, réunis dans un même aveuglement, se nourrir de l'antisémitisme viscéral qui exudait de prêches exaltés tenus par des imams formés en Arabie Saoudite et venus, sans aucun contrôle, endoctriner une jeunesse désœuvrée. Quelques centaines d'activistes ne donnent qu'une image grossière et caricaturale d'une vaste communauté. C'est vrai. Mais combien sont-ils derrière, à soutenir secrètement, à ne condamner que du bout des lèvres, à minimiser les atrocités commises au nom de l'islam ? Alors oui, Manuel Valls a raison de traquer désormais ce qu'il appelle les ennemis intérieurs. Car ce que nous croyons attachés par l'école aux valeurs démocratiques, ce que nous voulions voir participer pleinement à l'histoire républicaine dont nous voulions étouffer la colère, ils se sont gorgés des privilèges que nous leur consentions pour mieux nous détruire. Les Français juifs sont des Français à part entière, fermant de l'histoire française, de sa grandeur, de son expansion culturelle et économique. Ils n'ont de compte à rendre qu'à la République française, à laquelle ils ont toujours montré une indéfectible fidélité malgré les violences de l'histoire, et ne sauraient en aucun cas être tenus pour responsables de la politique d'un autre État souverain. N'interpréter l'antisémitisme en France qu'à travers le prisme de la guerre qu'à l'autre bout du monde se livrent Israël et les pays arabes, c'est refuser d'admettre les ratés de la machine jacobine qui s'enraye et donner une dimension internationale à un problème qui doit être spécifiquement français, celui de l'intégration. D'aucuns arguent que la crise économique, Le sentiment de déclassement social de populations maintenues en périphérie de centres urbains plus dynamiques constitue l'alpha et l'oméga étiologique de ces fièvres meurtrières. Bref, c'est aux calamiteuses retombées du modèle capitaliste occidental qu'il faut demander des comptes. Enfin, depuis quand l'inflation et la précarité de l'habitat justifient-elles qu'on scalpe une petite fille à l'arme de guerre à la sortie d'une école ? Comme tout virus, une fois l'antidote au point, l'antisémitisme a muté. Fini la dénonciation chrétienne du peuple déicide, du prétendu banquier apatride, du parasite soupçonné d'abâtardir et de ruiner les vieilles souches européennes. C'est l'israélien désormais, soutenu par l'Amérique, qui focalise les haines d'une nouvelle multitude, que couve amoureusement une gauche altermondialiste prête à faire feu de tout bois contre, pêle-mêle, l'impérialisme, le colonialisme, l'arrogance du capitalisme. Trop souvent, derrière le masque mondain de l'antisionisme humanitaire, se cache la bêtise moins reluisante de l'antisémitisme. Ce peuple autrefois méprisé parce qu'il ne pouvait pas se défendre, il est désormais détesté parce que ses soldats sont les meilleurs du monde, et ses ennemis, sur la rive sud de la Méditerranée, qui déjà en 1940 avaient accueilli favorablement les divisions allemandes, les voilà plus ligués que jamais contre le jeune État d'Israël. Dans la nouvelle Tunisie née des printemps arabes, dans la Libye de l'après-Kadhafi, fruit monstrueux de l'Occident, des djihadistes salafistes s'entraînent à la guerre sainte. En Syrie, de jeunes islamistes français attisent les feux de la guerre civile sous la bannière d'Al-Qaïda. Sans aucune réaction du gouvernement français. Qu'attend-on pour frapper avec la plus extrême sévérité ceux qui, sur notre territoire, propagent la haine du juif érigé en système ? Le tout récent président de la République ne saurait sous-estimer la responsabilité de l'État dans la recrudescence d'agressions antisémites depuis une dizaine d'années. Si Nicolas Sarkozy s'était jusqu'à la fin vu attribuer le soutien du Conseil représentatif des institutions juives de France, sans s'être pourtant jamais montré capable d'assainir les cités et d'apaiser les tensions communautaires, François Hollande, fort du vote, donc de la confiance, en 2012, de 93% des 6 millions de musulmans français, se devait d'annoncer une ligne claire et de s'y tenir. Loin s'en faut. Confus et approximatif, il réveillait, le mois dernier à Drancy, la vieille plaie encore douloureuse de la déportation, célébrait à l'envi un pathétique devoir de mémoire en vue d'entretenir le souvenir d'un crime dont la France entière devrait, à l'en croire, porter le fardeau, quand sa responsabilité incombe d'abord à un gouvernement illégitime sous la férule d'une puissance étrangère. Politique, la majorité anticipe le prochain voyage en décembre du chef de l'État à Alger, et le Sénat s'apprête, avec beaucoup d'à-propos, à examiner une proposition de loi communiste, reléguée dans les fonds de tiroir depuis plus de 10 ans, qui établit une journée du souvenir le 19 mars. Écho au cessez-le-feu fantaisiste de 1961, suite auquel 3000 Français d'Algérie et plus de 70 000 harkis furent, au nom d'une politique d'épuration ethnique, massacrés en 8 mois de paix, plus lourd en pertes civiles que 8 ans de guerre. On fait peu de cas du sang versé, mais là n'est pas tant l'enjeu. Alors que l'enseignement de la guerre d'Algérie et du génocide juif rencontre une résistance de plus en plus vive dans les collèges et lycées, l'essentiel réside dans une manœuvre cynique, si elle n'était pas si grossière, d'apprenti sorcier, que j'accuse d'entretenir à des fins électoralistes les divisions, les rancœurs mal digérées, de faire leur beurre sur le deuil de milliers de Français, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans. Vous me permettrez d'insister sur la nécessité absolue de protéger la République de tout repli communautaire, de toute résurgence de groupuscules paramilitaires qui, brandissant le drapeau de Tsahal ou du Hamas, peu importe, s'arrogeraient dans le silence gêné des institutions françaises le droit d'imposer à coups de matraque un simulacre de justice haineuse. Juifs ou musulmans, nous ne voulons pas choisir, nous voulons une plus grande France, sans chasse aux sorcières, mais sans compromission. Je sais qu'on m'accusera de ne m'intéresser ici tant aux Français juifs tourmentés que pour mieux crier haro sur la communauté musulmane, chaque année plus importante, plus retranchée, plus radicale aussi. Eh bien, c'est vrai. Les juifs de France n'ont pas traversé les persécutions de Philippe le Bel, de Saint-Louis ou des années d'occupation pour plier bagage aujourd'hui devant les lâches attentats de bandes incultes soutenues par une poignée d'États voyous. En revanche, oui, notre inquiétude va vers la communauté musulmane. Elle qui doit sans plus attendre s'organiser, se ressaisir, s'épurer, faire son deuil des archaïsmes qui la minent, entrer de plein pied dans la modernité, appeler enfin de ses propres voeux le temps de l'intégration avant que nous ne lui imposions le temps du rejet.
Merci Louis et merci pour ton éditorial et ta liberté de vue sur cette question. Alors Louis, tu nous parlais à l'instant du regain d'antisémitisme en France avec ton point de vue, ta liberté de ton. Et il y a une cinquantaine d'années, dans le contexte de la guerre d'Algérie, les tensions politiques se sont muées en tensions sociales, religieuses et identitaires. Et en France, ce sont les Algériens musulmans métropolitains qui étaient stigmatisés. Une question revenue ces derniers jours, comme tu le soulignais rapidement, sur le devant de la scène, avec le communiqué lapidaire de François Hollande, reconnaissant la responsabilité de la République française dans les violences ayant suivi les manifestations du 17 octobre 1961.
17 octobre 1961, retour du devoir de mémoire à la mode hollandaise, un sujet préparé par Colline Allier.
Rappelons rapidement que le conflit de la guerre d'Algérie se double d'une guerre civile et idéologique à l'intérieur des deux communautés, donnant lieu à des vagues successives d'attentats, assassinats et massacres sur les deux rives de la Méditerranée. Côté indépendantiste, elle se traduit par une lutte de pouvoir qui voit poindre la victoire du FLN sur les partis algériens rivaux, notamment le MNA, et par une campagne de répression contre les Algériens pro-français soutenant le rattachement de l'Algérie à la République française. Par ailleurs, elle suscite côté français l'affrontement entre une minorité active hostile à sa poursuite, une seconde favorable à la Révolution, les porteurs de valises, du réseau Janson notamment, et une troisième voulant le maintien de l'Algérie française, selon l'expression consacrée, et ce sont là l'OAS ou le Front Algérie française.
Or, ces troubles se diffusent de l'Algérie à la France métropolitaine et des attentats éclatent notamment à Paris. Dans les villes où une forte communauté algérienne est présente, on assiste même à des règlements de comptes d'une rare violence entre partisans du FLN et partisans du MNA.
Alors, face à cela, des mesures sont prises pour permettre un retour à l'ordre, Louis l'évoquait rapidement. C'est notamment le couvre-feu qui concerne donc les citoyens d'origine maghrébine, accueillis sur le territoire de la métropole, loin du département, des départements que constituait l'Algérie, un couvre-feu qui les concernait, qui a été mis en vigueur le 5 octobre 1961.
Originellement créé pour répondre aux agressions nocturnes du FLN, donc, il suscita une opposition publique plus large, jugeant la décision raciste et liberticide. En réaction à ce couvre-feu, une manifestation organisée par le FLN eut lieu. 20 000 à 30 000 Algériens défilèrent donc à Paris le soir du 17 octobre 1961, d'abord de manière pacifique, avant que des tensions éclatent et que des altercations violentes entre policiers et manifestants aient lieu.
Alors, c'est quoi le bilan, Marie-Ève, de cette manifestation sanglante ?
Difficile à dire, Thomas. La préfecture de police de Paris, dirigée par Maurice Papon, annonce 2 morts parmi les manifestants, tandis que le FLN évoque des centaines de meurtres. Les historiens parlent aujourd'hui, pour la plupart, de plusieurs dizaines de morts.
Alors si on revient comme ça sur la manifestation du 17 octobre 1961, c'est parce qu'elle vient de faire l'objet d'un communiqué du président de la République, François Hollande, qui reconnaît la responsabilité de l'État dans 3 petites phrases.
Et je cite « Le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits. 51 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire de ces victimes. »
Un communiqué discret et lapidaire, avec plaque commémorative à la clé, inaugurée sans grande pompe, qui montre que les débats sont encore vifs et que les plaies ne sont pas encore bien cicatrisées concernant ces événements tragiques de l'histoire française.
On est loin de la gravité chiracienne du discours du Veldiv du 16 juillet 1995. Mais avec ce communiqué, François Hollande s'inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs qui ont tous plus ou moins mis en avant, à un moment de leur mandat, le devoir de mémoire. Même Nicolas Sarkozy, qui faisait certes le distinguo entre devoir de mémoire et acte de repentance.
Mais si le communiqué est bref, l'annonce n'est pas une grande surprise.
François Hollande entretient en effet une relation particulière avec l'Algérie. C'est à Alger qu'il a effectué son stage de première année en tant qu'énarque et il s'y est rendu au moins 2 fois depuis.
Concrètement, derrière cette déclaration, François Hollande envoie un signal à l'Algérie. Lui qui vise la ratification d'un traité d'amitié franco-algérien pendant son quinquennat. C'est d'ailleurs pourquoi, lors de sa campagne présidentielle, il avait déjà parlé de reconnaître la responsabilité de la République française dans cette nuit meurtrière du 17 octobre 1961. Opération réussie puisque le Premier ministre algérien a salué, je cite, « les bonnes intentions », là aussi on est très lapidaire, manifestées par la France.
Cependant, la reconnaissance de la responsabilité de l'État par François Hollande a occasionné bien des remous.
Et c'est surtout à droite, pensez-vous, que les dents grincent. François Fillon regrette la culpabilité permanente dans laquelle le pays est plongé et Christian Jacob, le chef de file des députés UMP, qui nous accorde une interview diffusée la semaine prochaine d'ailleurs, estime qu'il est intolérable de mettre en cause la police républicaine et avec elle la République tout entière.
Marine Le Pen, quant à elle, en a profité pour relancer le débat du racisme anti-blanc, s'inquiétant des répercussions que peuvent avoir ses repentances, je cite, sur un certain nombre de nouvelles générations de Français d'origine algérienne qui ont une hostilité maintenant à l'égard de la France.
Alors loin de ses préoccupations politiques, c'est avec soulagement et émotion que les familles des victimes et les responsables d'associations ont accueilli la nouvelle.
Mais nombre d'associations ont eu un sentiment d'inachèvement.
Oui, Marie-Ève, parce qu'on est loin d'un apaisement des relations franco-algériennes, évidemment. On est encore loin de la reconnaissance des deux côtés de la Méditerranée, de l'ensemble des actes perpétrés lors de la guerre d'Algérie. L'historien Benjamin Stora d'évoquer des mémoires sous tension à propos de l'historiographie, d'ailleurs récente, parce que le sujet est resté longtemps tabou et son traitement partial entre le silence de la France sur les exactions commises au temps colonial et la surabondance algérienne décrite sur la guerre de libération nationale idéalisée et de montrer que longtemps la construction historiographique a reflété les tensions et cicatrices qui subsistaient. Bref, trois petites lignes présidentielles pour un premier pas timoré en somme.
17 octobre 1961, retour du devoir de mémoire à la mode hollandaise. Un sujet préparé par Colline Allier. Dans la rubrique Droit de suite, nous vous tenons informés de l'évolution de sujets et de questions que nous avons pu traiter dans de précédents numéros. Parce que le traitement de l'information ne devrait pas se résumer à ce flux tendu où valsent sans retour les sujets.
Ainsi, dans une précédente édition de notre grand journal politique, nous vous parlions du droit de vote des étrangers, qui faisait la une de l'actualité et qui divisait non seulement l'opinion en général, mais également la gauche et le Parti socialiste.
Rappelez-vous, mi-septembre, les critiques de Manuel Valls, jugeant non prioritaire un tel sujet, s'opposaient à l'appel dans Le Monde de 75 députés socialistes, toutes tendances et générations confondues, à François Hollande, afin qu'il respecte sans tarder sa promesse de campagne.
Une promesse de campagne qui concerne 1,8 million d'étrangers extra-communautaires, c'est-à-dire non issus d'un pays membre de l'Union européenne et ayant résidé au moins 5 ans en France.
Or, les hésitations d'il y a un mois semblent laisser la place à une franche reculette sur le sujet.
En effet, Marie-Ève, déjà début septembre, le Canard enchaîné expliquait pourquoi François Hollande était en train de reculer sur la question. C'est une réforme constitutionnelle et pour l'instant, nous ne disposons pas d'une majorité des 3/5 pour la faire adopter, aurait alors dit le président selon le Canard.
Des propos confirmés le 20 septembre dans Libération.
Oui, alors le journal publiait des offs d'un ministre anonyme et qui disait « Aujourd'hui, on peut très bien décider de soumettre la loi au vote, mais on est assuré d'échouer. On va pas y aller juste pour se donner bonne conscience, ce serait absurde. »
Donc jusqu'ici, il n'y avait que des rumeurs, rien d'officiel.
Oui, c'est ça, mais la situation a changé quand la semaine dernière, la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, s'est exprimée sur le sujet, sur les ondes de Radio Classique. On l'écoute.
Il est prématuré de parler d'un calendrier, y compris pour répondre sur la question de 2014. Pour une raison simple, c'est que, au fond, ce qu'a dit le président de la République et le Premier ministre, c'est qu'il fallait créer les meilleures conditions avant d'ouvrir ce débat. Et créer les meilleures conditions, c'est dépassionner les choses pour éviter qu'on ne reparte sur la caricature et la stigmatisation permanente et faire en sorte que les parlementaires qui seront invités à voter, in fine, soient peu à peu convaincus de l'utilité d'une telle réforme. Est-ce qu'ils le seront à temps pour 2014 pour qu'elle s'applique, hein, c'est ça votre question, pour que la réforme s'applique en 2014. J'avoue avoir quelques doutes, puisque ça signifierait que nous adoptions ce texte d'ici le printemps 2013.
C'est mal parti.
Ça me semble compliqué, en effet. Maintenant, ce n'est pas non plus totalement exclu si nous sentions que l'opportunité se présentait et que les esprits étaient prêts.
Si les esprits étaient prêts, on voit donc à quel point le terrain est miné pour le gouvernement et on comprend que s'accumulent les difficultés pour qu'une telle promesse soit tenue.
Et on termine comme à notre habitude sur une note plus légère.
Et là, je tenais à dire que vraiment, je ne cautionne pas la ligne éditoriale donnée par Marie-Ève, à qui vous devez, comme vous vous en doutez bien, tous ces sujets de fin d'émission.
Mais bien sûr.
Qui d'autre que Marie-Ève pour proposer de tels sujets ? Première émission, rappelez-vous. Des sondages étonnants qui donnaient Nicolas Sarkozy favori, notamment des sympathisants de droite, pour l'emporter en 2017. Bon, passe encore. Deuxième émission, la question de la hausse de la taxe sur la bière, qui ne trompe personne. Rappelons que notre amie Marie-Ève est alsacienne. Et là, annonce-le.
Nous allons vous montrer les liens entre écologie politique et érotisme.
Voilà. Non mais je vous le dis, je n'ose pas imaginer quel sera le sujet de fin de la prochaine émission qui aura lieu dans 2 semaines.
Au passage, vous apprécierez le suspense que nous créons, la manière que nous avons de vous tenir en haleine, le désir que nous faisons naître en vous, parce qu'au fond, nous savons très bien que vous n'écoutez cette émission que pour le dernier sujet, et que même, avouez-le, il vous arrive de bouger le curseur du player après l'annonce des titres pour directement écouter le dernier sujet.
Tout cela pour faire de l'audience. Tu sais quoi, Marie-Ève ? Ben, tu me dégoûtes.
Eh ben, j'assume.
D'ailleurs, un indice qui ne trompe pas. N'avais-tu pas proposé comme titre « Sans dessus-dessous » pour ta nouvelle émission, censée être sur la foi et la spiritualité, mais qui, à n'en pas douter, aurait pris un autre tour avec un tel titre ? Bref, parlons donc de Florence Lamblin.
Ça vaut mieux. L'élu écologiste du 13e arrondissement de Paris est en effet mêlé dans une affaire de blanchiment d'argent.
Bon, jusque-là, hélas, rien de bien palpitant. Ce n'est pas le premier scandale politico-financier qui soit, et ce ne sera pas le dernier.
Hélas non, Thomas. Mais cette affaire vire au grand déballage, puisque Paris Match, et oui, nous lisons Paris Match, nous révèle que l'élu aurait en effet des participations dans plusieurs sociétés françaises, dont l'une, Kobisha, édite le site www.sexecolo.com, une boutique en ligne qui propose des sextoys et autres accessoires mariant, je cite, écologie, protection de l'environnement, sensualité et sexualité.
Alors juste une parenthèse pour saluer le travail et la ligne éditoriale de Paris Match, grand journal français devant l'éternel, qui a récemment complété sa devise « Le choc des mots, le poids des photos » par « L'intérêt de nos infos ».
Oui, avec tout ce qui se passe en France et dans le monde, cette histoire n'aurait dû tout au plus qu'alimenter les discussions des concierges du 13e arrondissement.
Mais non, Marie-Ève, c'est justement ça la ligne éditoriale de Paris Match. Faire de belles photos pour maquiller des raconteurs de concierges.
Mais il faut remercier Paris Match, parce que cette information essentielle, s'il en est, nous a tout de même bien fait rire.
Imaginez la scène.
Bonjour, je m'appelle Florence Lamblin.
Enchantée.
Je suis élue d'Europe Écologie Les Verts à Paris.
Ah!
Et sinon, je vends aussi des godemichés sur Internet.
Oui, cherchez l'erreur.
Mais comme nous sommes de vrais journalistes, nous avons poussé notre conscience professionnelle jusqu'à aller sur sexecolo.com, enfin c'est Thomas qui l'a fait, pour voir ce que pouvaient bien être ces sextoys et autres accessoires mariant, je cite à nouveau, écologie, protection de l'environnement, sensualité et sexualité.
Le canard vibrant est toujours là, mais il est sans latex, ni phtalate, solide et durable, quand même. On y croise également un lubrifiant anal à l'extrait naturel de goyave, ça donne envie. Et les DVD X sont certifiés sans silicone.
Bref, si vous aviez toujours rêvé de tout savoir sur...
La sexualité de Noël Mamère et d'Eva Jolie, Graou.
Vous êtes maintenant au courant.
Notre émission touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de l'émission.
Merci à Xavier, Fabien et Louis à la technique, sans qui cette émission n'aurait pas pu se faire. Merci également à Mathilde, Colline et Jérôme pour leur aide dans la préparation de l'émission. Et merci enfin à nos deux éditorialistes de la semaine, Caroline et Louis.
Également sur les ondes de Transistor cette semaine, ne manquez pas le retour de 20 minutes d'histoire, à ne pas manquer.
Sinon, vous pouvez toujours réécouter le premier numéro de Sans langue de bois, parole de militants, diffusé la semaine dernière et toujours disponible sur la page de l'émission. Tatiana Fauconnet réunissait une militante d'Oser le féminisme, un militant des jeunes pop et une militante du parti de gauche pour débattre de la question du droit des femmes.
Alors nous vous laissons en bonne compagnie, comme d'habitude, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le premier numéro des grands formats de Sans langue de bois. Nous recevrons Christian Jacob, député maire de Provins et président du groupe UMP à l'Assemblée, proche de Jean-François Copé. Avec lui, nous aborderons des thèmes comme le rôle de l'opposition, le duel Copé-Fillon pour la présidence de l'UMP ou encore les potentiels partenaires pour l'UMP que sont l'UDI et peut-être même le Front National. Bref, une interview exclusive à découvrir la semaine prochaine sur les ondes de Transistor.
D'ici là, on ne change pas les bonnes habitudes et surtout, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.